Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ouais, oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande de chasseurs de primes qui sillonnent le système solaire. Je vais vous parler de la série Cowboy Bebop. Cowboy Bebop est une série d'animation, un dessin animé si vous préférez, réalisé par Shinichiro Watanabe en 1998. Elle se résume en une saison de 26 épisodes où nous verrons des chasseurs de primes, les cow-boys dans le jargon de la série, pour chasser des hors-la-loi avec plus ou moins de succès. L'action se situe en 2071. L'humanité s'est installée sur plusieurs planètes et astéroïdes du système solaire. Cette colonisation s'est faite un peu contraint et forcé. En 2021, on invente un schéma de portail permettant de voyager dans le système solaire en hyperespace. Le délai pour se rendre de planète en planète est formidablement raccourci. Mais le mécanisme qui permet de faire fonctionner ces « gates », comme on les appelle, est instable. Et les premiers essais tournent au drame. La « gate » en orbite autour de la Terre explose et détruit partiellement la Lune. Les débris retombent sur Terre, rendant impossible toute vie à la surface. La population n'aura d'autre choix que de vivre sous Terre ou de partir pour un autre astre. Belle ironie du sort, l'outil qui devait permettre au genre humain de conquérir le système solaire l'obligera à le faire pour sa survie. A noter que le réseau des gates a été fiabilisé et que les voyageurs l'empruntent quotidiennement. L'humanité n'est pas très rancunière. Rapide présentation des personnages principaux. Spike Spiegel, 27 ans, grand, mince, à la chevelure brune et ébouriffée, toujours vêtu du même costume bleu. Aguerri aux arts martiaux, il excelle aussi en matière d'armes à feu. D'un tempérament plutôt taciturne, il a une conception de la justice bien à lui. Et il est prêt à tout pour mettre la main sur les hors-la-loi, pas vraiment par calcul, mais rien ne doit se dresser entre lui et la prime que représente un fugitif. Que ce soit des promeneurs, des voitures, voire une ville entière. Avant d'être chasseur de primes, il faisait partie d'une organisation criminelle sur Mars. Mais fatigué de cette vie, il veut raccrocher. Mais on ne quitte pas ce genre de société à sa guise. Il va devoir simuler sa mort pour renaître tranquillement. Deuxième personnage avec qui Spike forme le noyau dur de leur équipe, Jet Black. Ancien policier au sein de l'ISSP, la police du système solaire, il décide de raccrocher après avoir été trahi par son partenaire dans un guet-apens où il perdra un bras. Bras qui sera remplacé par une prothèse. Il a 37 ans, il a un physique plus massif que son coéquipier, ses domaines de prédilection sont la mécanique, la cuisine et les bonsaïs. Il a gardé des contacts au sein de l'ISSP, ce qui lui permet d'avoir des informations sur les criminels qu'il recherche. Au fil des épisodes, l'équipe va s'enrichir de divers membres, plus ou moins efficaces. Le premier dans l'ordre chronologique est un chien. Un Welsh Corgi, pour être précis. Il s'appelle Ayn. C'est un chien au capital génétique parfait et d'une valeur inestimable. Il rejoint l'équipe un peu par hasard et se révélera très intelligent et d'une aide inattendue dans certaines enquêtes. Vient ensuite Faye Valentine. Elle a 77 ans, même si on fait 52 mois. Elle a été victime en 2014 d'un accident d'avion spatial et a été cryogénisée. À son réveil, 54 ans plus tard, elle est la victime d'une escroquerie. Elle n'a de cesse alors que de fuir ses créanciers dans tout le système solaire. Vivant de petites escroqueries, dans l'espoir d'éponger ses dettes, elle dilapide cependant son butin dans les courses de chevaux. Elle rencontre nos deux lascars à l'occasion d'un quiproquo et elle décide de les rejoindre pour faire équipe avec eux, sans qu'ils aient forcément leur mot à dire. Enfin, faire équipe, c'est un bon gros mot. Elle n'hésite pas à les lâcher à la première occasion pour ensuite revenir vers eux une fois qu'elle est fauchée. D'un très fort caractère, elle est aussi tenace que Spike quand il s'agit de traquer les brigands. Dernière personne à taper l'incruste, Edward Wong O Pepelu Tibrowski, quatrième du nom. C'est une jeune fille de 13 ans. Ed, c'est plus simple de l'appeler comme ça, est au départ considéré comme un suspect par les chasseurs de primes pour avoir hacké des satellites. Elle les aidera à démasquer le vrai coupable, une intelligence artificielle, et obtiendra ainsi une place dans le vaisseau. En leur forçant un petit peu la main, quand même. Tout ce beau monde parcourt le système solaire à bord du Cowboy Bebop. Le bebop est une variante du jazz, une version moins académique, basée sur l'improvisation. Ce qui résume bien nos héros qui ont tendance à jouer leur propre partition au regard des lois et des codes. Leur capacité d'improvisation en fait toutefois des bons chasseurs de primes. Au prix malgré tout de moult dégâts dont les coups taillent leurs primes en pièces. Tant qu'on en est à parler de musique, il faut parler de la bande-son.
Mais cette bande-son, mes amis !
J'ai rarement entendu une bande originale aussi dense et variée. L'inspiration majeure vient du jazz et du blues, avec des morceaux détonnants comme du metal, de la pop, des ballades et du funk. C'est à la compositrice Yoko Kanno que l'on doit ses compositions hétéroclites qui participent grandement au succès de la série. Au cours de la péripétie, les héros vont aller de planète en planète et elles seront plus ou moins accueillantes. Vénus a été totalement terraformée. La terraformation est un procédé consistant à rendre une planète autre que la Terre habitable à l'air libre pour les humains. Mais sur Vénus, des plantes disséminent un pollen agressif qui peut rendre aveugle. Sur Mars, seules quelques grandes cités abritent la vie. Mars est la principale destination de la diaspora humaine, à tel point qu'on peut s'amuser à trouver des points communs avec différents pays ou villes que nous connaissons sur Terre. Au fil des épisodes, on reconnaîtra les grandes métropoles asiatiques, Tokyo, Hong Kong. Un épisode nous montrera un paysage qui fait penser au Mexique. Un autre évoquera subtilement le Paris des années 60. Callisto, une ligne de Jupiter, nous fait penser à la Russie. Il y a bien évidemment des mondes plus exotiques. Ganymède, autre satellite jovien. Ça veut dire jupitérien, mais c'est plus classe. Et quasiment recouvert par des océans. Des astéroïdes ont été colonisés pour permettre leur exploitation. Ah, vous reprendrez bien un peu de science-fiction. De nombreux thèmes sont abordés dans cette série. Ganymède, dont je parlais juste avant, abrite une population d'animaux marins sauvages victimes de surpêche. Pour y mettre fin, un groupe d'éco-terroristes sème la terreur et exécute tous ceux qui osent manger les pauvres animaux. Nos héros croiseront des trafiquants de drogue, syndicats des crimes oblige, un jeune garçon qui se la joue Dorian Gray, une intelligence artificielle dépressive, un téléachat pour chasseurs de primes, des camionneurs de l'espace, un magnétoscope, Betamax, le magnétoscope. Le détail a son importance. Mais aussi un tueur en série, résultat d'expériences de laboratoire. Ainsi que nombre de leurs confrères chasseurs de primes, tous aussi bourrins que nos héros. Mais un élément est récurrent dans la série et ne cessera de les hanter. Le passé. Et chacun l'appréhendra à sa façon. Pour Spike, le passé est encore douloureux. Quand il a fui l'organisation dont il faisait partie, il a été trahi par sa compagne à qui il avait demandé de le suivre. C'est une blessure encore à vif et à la moindre évocation de sa Julia ou de son ancien partenaire de crime, il devient comme enragé et incontrôlable. Jet, quant à lui, gère ça d'une manière plus apaisée et considère que le passé, s'il n'est pas forcément positif, permet de tirer des leçons. À toute chose, malheur est bon, comme on dit. C'est l'absence de passé qui caractérise Faye. Elle a tendance à agir de manière inconsidérée, sans se soucier du lendemain et des conséquences de ses actes. Comme si le fait de ne pas avoir de souvenirs de son passé l'exemptait de prévenir son futur. Tout le monde, ou presque, a un passé, des souvenirs, et l'expérience que l'on retire nous aide à aller de l'avant. Dans le cas de nos comparses et de leur approche différente, on mesure d'autant plus la valeur et la nécessité de savoir d'où l'on vient pour choisir où on va. Loin d'être tournée exclusivement vers le passé, la série a tout de même des accents mélancoliques. Pas dans le genre « c'était mieux avant », mais plutôt dans le sens « blasé ». Un peu revenus de tout, ils font parfois preuve de détachement au sujet de leurs contemporains. Il y a un autre élément qui fait partie intégrante de la série et qui est, sans que l'on s'en rende compte, présent quasiment à chaque épisode. Un élément devant lequel nous serions tous égaux. La mort. La fausse mort de Spike, dès les premiers instants de la série. Celle bien réelle des bandits pourchassés, des victimes collatérales. Les héros, Spike en tête, ne cesseront de flirter avec elle. La voyant passer de près, de très près. Voire carrément de jouer avec elle, de la provoquer. Ce qui m'amène à vous parler d'une particularité de cette série. Sa représentation d'une violence graphique. Son traitement est pour le moins explicite. Ce qui vaudra au réalisateur et à son équipe des problèmes avec les diffuseurs. La série n'est pas gore. Il n'y a pas de tripes sanguinolentes ou de cerveaux répandus sur le sol. L'approche qui en est faite est, comment dire, pédagogique. Pédagogique dans le sens qu'elle montre les conséquences d'une bagarre avec un visage tuméfié et recouvert de bandages. Ou alors un homme qui perd son sang après s'être fait tirer dessus, et du sang rouge qui plus est. Alors oui, le choix du traitement de la violence est purement éditorial. On peut ne pas montrer tout ça, échanger des coups de feu ou de poing sans faire étalage des suites plus ou moins fâcheuses. C'est un choix assumé de Shinichiro Watanabe. Et ce choix se reflète un peu dans la série, c'est aussi ça qui fait le succès de Cowboy Bebop. De l'irrévérence et du non politiquement correct. Je fais ce que je veux et libre à vous d'apprécier. Ou pas. Une autre particularité de la série, les décors et le mecha design. Le mecha design, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode de cette émission, et je ne vous félicite pas, c'est le design des éléments non biologiques présents à l'écran. Ça va d'un crayon à une station spatiale en passant par le mobilier, les véhicules, les maisons. Dans la série, il y a bien évidemment des vaisseaux spatiaux, petits, grands, monoplaces, etc. Il y a des véhicules terrestres, comme on en connaît aujourd'hui, voitures, camions, trains, avec une allure un peu différente, c'est normal, on est 50 ans plus tard qu'aujourd'hui. Ensuite, il y a l'architecture urbaine. Là, on s'y retrouve totalement, tout comme dans les vêtements et les équipements du quotidien. Le mélange des époques, si l'on peut dire, permet de mieux nous intégrer dans le contexte. Il y a l'exotisme du voyage spatial, mais la sensation de connaître les rues dans lesquelles se déroule l'action. Ce choix plus ou moins conscient se tient dans le cadre de la série. Les humains ont été contraints de quitter la Terre d'une façon brutale et dans un laps de temps très court. Alors, un peu de nostalgie bienveillante permet de mieux accepter le déracinement subi. Tout comme un exilé a besoin de petites parcelles de sa terre natale pour atténuer le dépaysement. La série a eu droit à son long métrage en 2001. Il s'agit en quelque sorte d'un super épisode qui se situe entre les épisodes 22 et 23 de la série. Dans ce film, les chasseurs de primes recherchent un terroriste qui fait exploser un camion-citerne contenant un produit chargé en nanorobots, qui attaque le système nerveux des victimes qui périssent en voyant apparaître des papillons lumineux. À noter qu'au moment où j'enregistre cette émission, Netflix a lancé la production d'une adaptation live de la série. Ouais, voilà, voilà. Je vais rester indulgent et attendre de la voir avant de hurler à la trahison. Alors, qu'est-ce qui fait de Cowboy Bebop une bonne série d'animation sur le thème de la science-fiction ? C'est un subtil mélange de tout ce que je viens de citer auparavant. Mais il y a beaucoup de bonnes séries SF, alors pourquoi celle-là ? Elle a un petit supplément d'âme, un petit je-ne-sais-quoi qui fait qu'on accroche à l'histoire, au personnage. C'est une alchimie subtile et fragile, difficile à mettre en place aussi bien du côté des créateurs que du côté du public. Cette série n'est pas consensuelle, elle est violente. Elle ne s'embarrasse pas de la bienséance. Aussi bien en son sein, que du côté du public. Et elle l'assume, et c'est peut-être ça qui fonctionne. Son côté, je fais ce que je veux et je vous en... Alors, elle finit comment cette série ? J'ai beaucoup hésité quant à choisir de dévoiler ou non la fin de Cowboy Bebop. En la revoyant, j'ai compris qu'il fallait que je vous la raconte, car elle fait partie d'un arc narratif qui commence dès le début de la série. La fin commence, si on peut dire, à l'épisode 23 sur 26. Nos héros se retrouvent sur Terre pour chasser un fugitif qui s'est donné comme mission de refaire une carte topographique de la Terre. Car depuis la destruction partielle de la Lune, le paysage a beaucoup évolué. Mais refaire une carte d'une planète sur laquelle tombe une météorite toutes les 10 minutes, vous voyez, c'est pas simple. Je pense qu'on tient là notre Sisyphe ultime. Mais il se trouve que le monsieur en question est le père de Ed. C'est elle qui a lancé la prime sur son géniteur, et qui décidera de le suivre à la fin de l'épisode. Dans les deux derniers épisodes, c'est le passé de Spike qui le rattrape. Son ancien partenaire, au sein de l'organisation criminelle dont il faisait partie, a pris le pouvoir et décide de faire table rase. Pour Spike, c'en est trop, et il décide de mettre un terme à ce putsch sanglant. S'engage alors une bataille, au cours de laquelle il perdra sa Julia pour de bon. Ses collègues réagiront très différemment. Faye ira jusqu'à le menacer pour qu'il reste. Jet, quant à lui, a compris que rien ne le retient et que son destin, pouvoir, la fatalité, l'ont guidé vers ce but. L'affrontement final verra un Spike déchaîné et résolu à en finir avec son meilleur ennemi, et aussi son passé. L'aventure touche à sa fin. Son adversaire terrassé, Spike fait un dernier pied de nez aux quelques survivants du massacre et s'effondre. Alors, Spike est mort ? Chacun peut se faire son idée. Pour ma part, je pense que oui. Pourquoi faudrait-il une happy end ? Et ça conclurait la boucle entre sa mort fictive du premier épisode et celle bien réelle du dernier. Ou alors, c'est un recommencement, une sorte de boucle sans fin. Ou alors, Spike est mort au début de la série, et tout ce qui suit est une sorte de rêve. Libre à vous de vous faire votre propre idée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ».